on CKUT. Stay tuned for Cafe coming up next on 90.3 FM.
Bonsoir tout le monde, c'est Alex qui vous parle. Vous êtes sur les ondes de CKUT. Il est 18h et vous écoutez votre émission d'art et culture préférée du vendredi soir, l'émission Café. Je vous parle depuis mon studio maison un peu plus tôt dans la semaine, mais lorsque vous allez m'entendre, nous serons vendredi le 10 décembre. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, le temps a tellement passé vite, j'en reviens pas qu'on soit déjà rendu à la mi-décembre. Et d'ailleurs, parlant de temps qui passe trop vite parce qu'on fait les liens qu'on peut, il reste une seule journée pour participer à la campagne hashtag soutenez vos scènes lancée par l'Association des scènes de musique alternative du Québec, mieux connue sous le pseudonyme SMAC. L'association a donc déployé une grosse campagne de sociofinancement un peu plus tôt dans l'année dans le but de participer à la relance économique du milieu des arts de la scène alternative qui a été vraiment durement touchée par la pandémie et qui a encore beaucoup de difficultés à se relever de celle-ci. Elle n'est pas encore terminée et elles le sentent encore. Donc, pour contribuer, c'est vraiment super simple. Vous n'avez qu'à visiter le site internet laruchequebec.com. Et vous pouvez y acheter des billets pour vos salles de concerts alternatives préférées. Le but, c'est vraiment d'injecter des liquidités à ces salles de spectacle partout au Québec. À Montréal, par exemple, il y a dans nos salles de spectacle préférées, ici à Café, on y trouve le Osgang Plaza, la Sala Rossa, le Quai des Brumes, le Vert Bouteille, pour ne nommer que celle-là. Et donc, vous pourrez trouver toutes ces infos sur notre page Instagram et notre Facebook à Café CKET. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore, c'est un bon moment pour aller le faire. Sinon, ce soir à l'émission, on vous a préparé une heure à saveur musicale avec deux entrevues qu'on a fait avec deux artistes issus de la scène de la relève montréalaise. Ma collègue Esther B. s'est entretenue avec la musicienne et compositrice Salomé Perli, qui va lancer son premier album le 15 décembre prochain. Donc, entrevue qu'on va vous présenter un peu plus tard à l'émission. Sinon, tout de suite, je vous présente l'entrevue que j'ai fait un peu plus tôt cette semaine avec le musicien David Lagacé, avec qui nous avons parlé de son premier album Super Bulldog. Et juste avant, nous allons aller en musique tout de suite avec un des gros hits tirés de son album, la pièce Ella. Bonne écoute tout le monde.
Bien le mal, tu ne les connais pas quand tu les tiens par la main. Entre dans la pièce comme s'il t'appartenait, sens comme s'il ne pouvait te contenir. Elle, même les larmes sur tes yeux, n'ont jamais eu autant de grâce. Tu disparais. jamais ne revient.
Allô, David!
Salut!
Et je suis trop contente que tu aies accepté de m'accorder cette entrevue. J'espère que tu vas bien.
Ça va super bien. C'est un grand plaisir.
Nice! Comme je le disais en début d'émission, tu as sorti tout récemment, fin octobre, si je ne me trompe pas, ton premier album solo, Super Bulldog, ou est-ce qu'on dit Super Bulldog?
Ben c'est comme les paroles de l'album, ça va des deux bords, ça va en anglais, en français, donc on peut dire lui qu'on veut.
OK, nice. Alors, je vais rester avec le Super Bulldog.
Oui.
D'ailleurs, je vais te demander d'où vient ce titre, mais on n'est pas encore là dans l'entrevue.
Okay, je vais me préparer.
Il y a tellement de choses que je vais aborder avec toi et le temps est compté, donc je vais essayer d'être le plus concise possible. David, tu es dans la scène musicale depuis de nombreuses années. Tu as joué dans plusieurs groupes, dont Louise, Fireworks, La Famille Ouellet. Tu es aussi guitariste à la pige, comme on dit. Qu'est-ce qui t'a mené vers un album solo?
Hey Alex, je suis désolé, ça cogne à la porte. Je suis vraiment désolé, je ne veux pas te couper, mais je pense que c'est...
Non, c'est chill.
Ça va prendre 5 secondes, OK?
Ben oui, ben, il y aura d'autres coups. Donc, David, tu es dans la scène musicale depuis vraiment longtemps. Tu as joué dans plusieurs groupes, dont Louise, Fireworks, La Famille Ouellet. Tu es aussi un guitariste à la pige. Qu'est-ce qui t'a mené vers la création d'un album solo?
Bien, ça fait tellement longtemps que je fais ça, puis j'ai toujours eu ça derrière la tête parce que j'ai toujours eu l'envie d'avoir aucun compromis, parce que travailler avec du monde, c'est toujours faire certains compromis, faire certains deuils de certaines idées, puis ça fait longtemps que j'avais envie de tirer quelque chose, puis que ça soit 100% mes idées, puis voir qu'est-ce que ça donne aussi, j'étais super curieux. Fait que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que je fasse l'album, puis que je lance mon projet en solo, puis j'avais le goût aussi d'avancer... à mon rythme, puis pas attendre personne. Genre, j'ai toujours un projet que je peux faire quelque chose, je peux avancer quelque chose parce que c'est moi qui le traîne tout seul. Tu sais.
Ouais. OK. Donc, cette question qui me brûle les lèvres depuis que j'ai vu ton album,
ouais.
Ça vient d'où, Super Bulldog?
Mais Super Bulldog, c'est venu d'un genre de brainstorm avec des amis, puis c'est devenu un mood board un peu pour toute la création d'album. C'est arrivé assez tôt, puis c'était vraiment un mot d'ordre. Je voulais faire quelque chose qui donne pas nécessairement dans la gentillesse ou dans la quelque chose de beau. Je voulais quelque chose qui était comme musclé, qui avait du chien là, c'est exactement ça là, Super Bulldog là. Puis en même temps, il y a un petit côté ludique au nom. Fait que, tu sais, il y a comme une porte ouverte à faire de quoi de super sérieux, un peu badass, mais qui est un peu ludique en même temps, ou que je peux être un peu, je sais pas, faire n'importe quoi avec le visuel, tu sais. Fait que c'est un peu ça, Super Bulldog. Puis aussi, le chien, il y a les deux côtés. Le chien peut être super doux. Je pense qu'il y a cette douceur-là qui se retrouve dans l'album sur certains textes, sur certaines chansons, mais toujours dans un esprit de faire quelque chose qui cogne fort, qu'il y a du chien, là, qui mord. Là, en tout cas, c'est un peu ça.
Ah
J'espère
ouais.
que la réponse est allée.
Ouais, complètement. Ben oui, puis ça marche vraiment bien parce qu'effectivement, c'est vraiment un album comme super texturé ou comme en fait, tu le décris super bien. Puis d'ailleurs, parlant de ce son, donc on entend vraiment dans l'album que c'est comme vraiment un son travaillé, abouti. Or, de ce que j'en ai compris, t'as presque tout fait tout seul sur cet album. Soit bon, tu chantes, tu joues de la guitare, mais tu as aussi réalisé, produit presque entièrement en solo, Super Bulldog. Tu as aussi co-réalisé les deux clips, soit de Ella et All at Once. Est-ce que tout ça, bon là, c'est comme beaucoup de choses que je te dis en même temps, mais est-ce que c'était des trucs que tu souhaitais faire tout seul ou bien t'en es venu à cette décision par une série de raisons?
Ben, c'est un peu les deux qui ont influencé. C'est sûr qu'au niveau de la musique, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. J'avais le goût d'avoir les mains liées sur tous les petits détails de la création à la production. C'est sûr qu'en bout de ligne, j'ai fait venir quelques musiciens. Il y a du monde qui sont venus jouer sur l'album. Puis j'ai fait mixer aussi par mon collaborateur de longue date, puis enregistrer quelques affaires. Mais presque la majorité des trucs, je les ai faites dans mon studio tout seul. Mais au niveau des clips, c'était plus. J'aurais aimé ça parce que j'étais vraiment dans le jus en déléguer un petit peu plus. Mais bon, la vie a fait qu'il a fallu que je m'implique beaucoup au niveau du graphisme, au niveau des clips. C'est vraiment des jobs que j'ai apprécié faire. Puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de créativité qui peut être déployée à ce niveau-là. Puis ça fait vraiment du bien. Puis j'ai adoré faire ça.
Ben oui,
Mais
c'est clair, puis c'est vraiment une belle job là, que tu as fait autant dans les clips que dans ton album, là,
merci. J'étais pour vrai, tu sais, je le dis tout seul, puis parce que dans la majorité des cas, j'ai été vraiment tout seul dans mon studio, mais j'ai été entouré de personnes incroyables, puis sans eux, ça n'aurait pas été aussi fresh, tout ça.
Ouais, là, tu as parlé un peu de tout ce que tu peux faire, mais c'est quoi la formation qui t'a mené? Est-ce que t'es autodidacte ou t'as suivi quelques cours musique, réalisation, cinéma?
Moi, j'ai étudié en musique en guitare,
OK.
mais j'ai jamais eu de cours de composition, des cours de. T'sais, on avait des petits cours de studio, mais c'est vraiment pas là que l'expérience est venue. C'est plus sur le terrain après avoir eu des milliers de bands, puis on s'est toujours enregistré. J'ai toujours été à côté des gens qui enregistrent à l'ordinateur, voir comment ça marche. Puis j'en fais depuis un certain moment, puis là. Je pense que ça commence à apparaître que j'ai de l'expérience à ces niveaux-là. Mais c'est plus l'expérience de vie, how to do that on Google ou genre des tutoriels YouTube qui m'ont appris à faire ça.
Wow, respect. Est-ce que, donc, pour revenir à l'élaboration de cet album, est-ce que ça a été super laborieux ou comme, je sais que tu disais que tu en as tiré comme beaucoup d'avantages parce que tu as une plus grande créativité, tu as plus de place pour toi, en fait, 100% de la place, mais en même temps, y a-tu eu des défis techniques ou juste humain là de faire ça tout seul.
Ouais, ben c'est sûr que il y a parfois quelques rôles où je me suis senti un peu imposteur dans tout le processus, étant plus seul. Mais je pense que les défis, c'était plus humain, là. C'est de quand tu pousses quelque chose tout seul, oui, c'est à ton rythme, mais t'es vraiment le seul facteur qui fait que ça se passe ou ça se passe pas. Puis même, je me souviens le jour que j'ai fini l'album, j'ai fait les derniers petits ajustements, mais j'ai fini tout seul au studio, puis j'étais bon, ben félicitations, Dave, c'était le fun. Bravo, hein? Tu sais, il y a de quoi d'un petit peu plus plate à ce niveau-là. C'est un petit peu moins party de comme on prend une petite bière avec le Ben, on a fini, wow, c'est le fun, tu sais. Fait qu'il est plus là le défi, t'es tout seul à tous les niveaux, là. Tu finis, puis tu prends une petite bière tout seul au studio, de yeah!
Ouais, c'est vrai que ça peut être plus dur de comme autant dans les bons que dans les mauvais moments de comme se féliciter ou essayer de s'encourager. Mais comme tu disais, tu avais comme une bonne équipe quand même d'amis peut-être autour de toi. Puis là, est-ce que c'était pendant la pandémie, la confection? Ça a-tu comme un lien avec la pandémie ou pas?
Mais ça a commencé avant. Je me souviens quand la pandémie, quand il y a eu le confinement et tout, j'étais rendu pas mal à enregistrer les voix. J'avais toutes les beats.
OK.
Mais la pandémie, ça a été un bon moment pour genre, vraiment tout finir. J'y allais presque chaque soir au studio parce que j'avais rien que ça à faire. T'sais. Fait que ça a été un bon moment pour tout finir. T'sais, puis...
OK, ouais. De toute façon, on ne pouvait plus rien faire.
Exact. Exact.
J'en ai parlé un peu en début d'émission. En ce moment, avec justement la pandémie, pour ne pas la nommer, il y a comme un système à double vitesse qui s'est installé au Québec dans l'industrie du spectacle. Donc, d'un côté, il y a les artistes établis qui ont moins de difficultés depuis la reprise des concerts, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour les artistes des scènes alternatives et émergentes qui ont souvent plus de difficultés avec le retour. Et là, je le mets en gros guillemets à la normale. Donc,
Ouais.
c'est plus difficile de remplir les salles. Je me demandais dans ce contexte-là, de quoi a l'air ta charge de travail comme artiste qui est en train de se faire un nom en fin 2021, genre?
Ma charge de travail, mais là, mettons, t'sais, j'étais vraiment comme dans le processus de lancement et tout. Fait que, t'sais, c'est sûr qu'il y avait un spectacle de lancement, mais on dirait que dans ma tête, l'aspect show, l'aspect tournée est pas vraiment existante pour mon projet à moi en ce moment. On dirait que c'est comme improbable que je puisse partir dans les prochains temps en tournée avec le band et tout. Fait que c'était vraiment de préparer un espèce de lancement, filmer tout ça, mais le gros de la job se passe surtout sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est promouvoir, faire des clips et tout, plus que de faire des spectacles. Pour mon projet personnellement en ce moment, parce que je fais des shows avec d'autres artistes, puis ça marche bien. Mais on dirait que sans booker, c'est comme il y a peut-être. Tu peux faire ton petit show à Montréal de temps en temps, mais en ce moment, on dirait que c'est plus difficile d'aller au-delà de ça à mon niveau, en tout cas, là.
OK,
En ce
puis
moment.
comme mettons, est-ce que tu aimerais ça en faire plus? Qu'est-ce que tu aimes? Où, mettons là, où tu te verrais dans 5 ans, là? On rêve, là.
Mais je te dirais partout, tu sais, l'objectif, c'est d'en faire le plus possible. C'est un nouveau projet, puis je veux vraiment que ça soit tapissé partout. Je veux qu'il y ait le plus de shows, je veux faire des tournées avec ça. Mais c'est sûr que c'est un work in progress. Là, l'album est sorti, le show était vraiment le fun. On a lancé ça au Lion d'Or le 10 novembre dernier, là, puis ça a vraiment
Oui.
été un spectacle incroyable. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, puis je pense que le public aussi. Fait que dans 5 ans, c'est sûr, je me vois avec quelques albums derrière la cravate, puis en train de faire des shows un peu partout, tu sais.
Et ben on te le souhaite tellement.
Yeah.
Et on nous le souhaite aussi parce que c'est vraiment bon.
Yeah.
Yes. Puis pour terminer, où est-ce qu'on peut te voir en ce moment? OK, là, on peut te voir sur les réseaux sociaux. Puis sinon, tu disais que tu jouais dans des bands.
Ben là, tu vois, demain soir. Je sais pas quand ça va airer, ça, cette...
Ah oui, c'est vendredi, donc
Ah,
qu'on met en ligne. Donc mercredi soir.
OK. Donc, ben, ça va être passé, mais vous pouvez me suivre avec, notamment en ce moment, je joue avec Étienne Dufresne. Je joue dans le groupe Nicolet, donc suivez les dates. Il n'y a pas grand-chose d'annoncer en ce moment, vu que c'est Noël, mais en 2022, il va y avoir plein de dates et plein de moments pour voir ça. Puis avec mon projet aussi, on travaille sur booker des shows, puis il va y avoir quelques shows de temps en temps, donc manquez pas ça.
Ben cool, merci pour cette entrevue.
Yeah. Merci à toi.
Ben ça fait full plaisir. Puis on vous laisse sur la chanson FOMO qu'on retrouve sur l'album Super Bulldog, album que vous pouvez écouter dans toutes les plateformes de musique en ligne, mais aussi pour encourager David Lagacé, vous pouvez aller sur son Bandcamp, David Lagacé. On va laisser toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Bonne soirée tout le monde.
Juste mais n'est pas où aller. Les mains sur le volant, mais la charge de paquet sans bouger. À contre-sens, les pieds sur le frein, tu fixes le tournant qui bloque le chemin. Ça, je suis pas de chicane. que quelqu'un y mettra un terme.
Talking about it for over a year, and you probably already know anyway, we've decided not to say it this time. So we're not going to tell you again that to protect yourself from COVID-19, you should wash your... And we certainly won't repeat once more that you should wear a... Or most importantly, that we must keep our... from others. Because you already know this is the best way to fight the virus. Even when you're vaccinated, let's continue to protect ourselves. A message from the Gouvernement du Québec.
Tame Impala in concert. Tame Impala Slow Rush Tour. An incredible transcendent live performance. Tame Impala plus Bell, March 10th. Get tickets now at evinco.ca. Tame Impala in concert. Tame Impala Slow Rush Tour. An incredible transcendent live performance. Tame Impala plus Bell, March 10th. Get tickets now at evinco.ca.
Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Bonsoir à tous et re-bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai joué une myriade de très bonnes musiciens de Montréal et je continue spécifiquement en parlant d'un lancement qui aura cours très bientôt et j'ai la chance d'avoir avec moi Salomé Perli avec moi. Bonjour Salomé et bienvenue sur Café.
Allô Esther, merci.
Très bien. Donc, tu lances un album multi-instrumentiste le 15 décembre et tu vas célébrer au Quai des Brumes ce lancement le 19 décembre. Le titre de ton album s'intitule « Dissonante ». Je sais que tu as fait ce, as conçu cet album pendant la pandémie et tu me disais en pré-interview que voilà, tu lançais ta carrière avec cet album. Donc, c'est ton premier album.
Oui, c'est mon tout premier album. Je suis très très contente de le lancer à Montréal, dans cette ville dans laquelle j'habite depuis un petit peu plus de 2 ans, et dans laquelle j'ai réuni et j'ai reconstruit un grand bordel musical que j'ai fait naître en France, donc dans mon pays d'origine, comme on peut l'entendre par mon accent.
En lisant la description de l'album, on peut être vraiment comme, on peut sursauter et voir, waouh, la juxtaposition des influences, la riche influence de, que ce soit la musique de jazz, Tori Amos, Steve Reich et Patrick Watson. Tu peux nous parler comment tu as conceptualisé toutes ces, tous tes coups de cœur, toutes ces influences-là, comment les cristalliser dans un seul album?
J'avoue que je ne l'ai pas forcément fait de manière consciente, mais j'ai l'impression qu'il y a donc une partie très pianistique dans cette musique-là, qui est qu'en fait, j'ai dans les mains comme des patterns répétitifs, ou bien des enchaînements plus basés sur l'harmonie classique ou jazz. Et en fait, j'ai commencé à poser des mots dessus, pour comme superposer, tu sais, la mélodie de la main droite du piano avec la mélodie du chant. J'ai écrit du texte par-dessus, et ou alors l'inverse, c'était écrire des chansons, puis prendre le temps de faire un arrangement évolutif et progressif qui crée un paysage musical dépendamment du couplet ou du refrain, ce qui fait que c'est des chansons longues qui sont pas faites pour vraiment passer à la radio parce qu'elles font toutes entre 4 et 8 minutes. Mais on a vraiment un voyage assez complet en termes de rythme, d'harmonie et de contraste, de nuances. Donc pour moi, c'est ça qui fait appel un peu aux trois mondes classiques, jazz, chanson. Le texte en français ou en anglais, même si je suis pas anglophone, j'aime ça écrire vraiment en anglais, ça me fait chanter d'une autre manière, j'utilise ma voix différemment, puis ça offre beaucoup de contraste à nouveau. Et pour ce qui est du français, c'est plus un besoin d'expression qu'on a tous. Chez moi, il est extrêmement prononcé et j'ai l'impression qu'en mettant mes textes en musique, je leur donne vie et je leur laisse la place qu'ils ont besoin. Je laisse la place à mes émotions de s'exprimer à travers de la musique. Ça me permet de mieux les accepter. Puis, tu sais, souvent, c'est des thématiques qui parlent à quand même pas mal de monde. Donc, je pense que les gens peuvent aussi se retrouver à travers mes chansons, même si c'est pas tout de suite accessible, dans le sens que comme un peu dans la musique de Björk, tu sais, il va falloir un temps de compréhension au texte pour comprendre l'univers abordé. Björk étant une très très grande influence, voire ma plus grande influence musicale dans ce que je fais, j'ai un peu repris son principe d'utiliser des mots pour leur rythme ou pour leur forme, sans forcément raconter une histoire. Super narrative, entre guillemets. Des fois, je vais juste poser des mots sur des ressentis sans forcément faire des phrases super bien construites. Des fois, oui, mais il y a d'autres moments où c'est plus mystérieux, on va dire. Et quand c'est mystérieux au niveau du texte, on a un type d'harmonie ou un type de rythme qui vont illustrer le propos du texte aussi. Donc, c'est vraiment un va-et-vient permanent entre la musique et le texte. Si je puis dire.
Ouais, c'est ça, je me posais la question. Donc, l'univers sonore est très important et va t'influencer certains textes et des textes vont t'influencer une musicalité, un univers sonore. Donc, il y a un jeu d'aller-retour. Wow, intéressant. Et les textes, ouais, justement, font penser un peu à un journal intime parfois. n'est-ce pas? Il y a des moments très personnels et tu le mentionnes dans ta description de pour les médias que c'est des textes de vécu quoi, quelque part.
C'est littéralement des textes qui viennent de mon journal intime, en fait. Certains, bien sûr, sont complètement retravaillés, puis je fais un travail plus poétique de prose dessus, même si j'ai pas de formation par rapport à ça, c'est vraiment assez instinctif. Je dirais que mon niveau de poésie dans la vie est pas supérieur à celui de n'importe qui aurait lu les livres qu'on lui demande de lire à l'école, mais disons que la ligne mélodique me permet de trouver du rythme dans un texte qui n'est pas écrit de manière formelle. Donc prendre un texte que t'écris de manière un peu compulsive dans ton journal intime, puis comment est-ce qu'avec le rythme de la mélodie, tu vas aussi mettre en rythme les mots? Ça, c'est quelque chose qui me passionne.
Justement, le jazz a une musicalité, permet justement de jouer avec les mots, les notes, ouais, les sonorités, quoi. C'est super important pour le jazz.
Vraiment, ce qu'on peut entendre, c'est dans le tout premier titre de l'album qui s'appelle Hope. Il n'y a pas de texte, mais j'utilise la voix comme un instrument supplémentaire. C'est pour ça que souvent je me définis plus en tant que vocaliste que chanteuse. Je vois vraiment la voix comme un instrument. J'aime chercher des textures, des timbres différents. J'aime interpréter des personnages différents avec ma voix. J'aime interpréter le texte, mais j'aime vraiment, ouais, utiliser la voix comme un instrument mélodique, comme un saxophone ou un violon qui répond à une harmonie, à un beat, à un pattern, à un groove. Donc c'est vrai que ça rajoute beaucoup d'informations. Ça se complémente beaucoup avec la partie mélodique du piano. Puis c'est un des gros challenges de cet album, c'est que la partie vocale et tout sauf pop en fait. C'est très contrasté en termes de rythme et de hauteur, mais je trouve que ça fait comme l'enveloppe générale de la chose est quand même assez homogène par rapport à tu sais, cette idée que ben, c'est la voix est un instrument et qu'elle blende avec le piano.
Ouais, tout à fait. On sent bien cette unité dans la production et dans l'usage de la voix tout au long de ce voyage, quoi. Donc, tu as utilisé, comment dire, tu as joué la plupart des instruments et ton premier instrument, bien, c'est le violon. Donc, tu me disais que tu avais enregistré une partie en studio maison et notre partie en studio professionnel,
Absolument,
et t'as un peu de collaborateurs également.
ouais. Oui, alors il y a 6 titres sur l'album qui ont été enregistrés dans un local que je loue downtown à Montréal, en fait, dans lequel il y a un super piano, un superbe Yamaha C3 que j'ai la chance de pratiquer dessus. Puis en fait, pour 6 des chansons, donc j'ai fait venir un ami à moi qui s'appelle Willem Meosfort Paquet-Aurel, qui est un collègue de l'école, puis qui fait superbement bien un travail d'enregistrement, d'arrangement, de mixage et de production audio. Et donc en fait, on a loué plein de micros, on en a mis 10 dans le piano, on a vraiment tripé à chercher où récupérer tel grain, telle texture, telle attaque, telle douceur, telle rondeur dans le son du piano. Pour la voix, on a utilisé un seul micro qui nous permettait d'avoir le moins de feedback du piano possible. Et donc sur 2 jours, on a enregistré les 6 premières chansons de l'album. Et comme cet album, je l'ai produit grâce à un financement participatif que j'ai fait sur Ulule à l'automne 2020, j'ai eu un peu de budget pour louer un studio professionnel pour 2 tunes en fait que j'ai arrangé pour un petit orchestre de chambre pas banal. Je l'appelle The Incredible Weirdo Chamber Orchestra parce que la composition est vraiment un peu strange dans le sens que bah il y a un quatuor à cordes, donc là ça va, mais il y a trois saxophones, donc un trio de saxophones plus un trio jazz. Donc c'est pas si weird que ça, mais la manière que j'utilise ces instruments-là change un petit peu de l'ordinaire dans le sens que ils ont tous un petit peu un rôle de soliste, mais ils vont aussi être utilisés comme un synthétiseur qui joue des nappes pour envelopper la partie vocale. Il y a du groove, il y a de l'impro, il y a des moments avec une pulse, il y a des moments qui sont pas pulsés du tout. Il y a des moments qui sont vraiment empreints de je sais pas, d'une symphonie de Tchaïkovski, puis d'autres où on part vraiment plus dans du Tigran Amassian ou des moments où on est vraiment dans des passages free, où les instrumentistes peuvent aller chercher des modes de jeu un peu inusuels. Donc c'est ça là pour le. Pour l'album, j'ai pu enregistrer avec bah, déjà deux des musiciens avec qui je joue de manière régulière, c'est Antoine Rochefort à la basse et Guillaume Picard à la batterie, que j'ai rencontré à l'Université de Montréal aussi, à la fac de musique. Puis après, donc pour le quatuor à cordes, j'avais Grégoire Cassier, Isabelle Bélanger, Alexis Castro Giovanni, que tu connais peut-être, et Gwendoline Krasniqi. Puis pour les saxophones, j'avais et je vais avoir au Quai des Brumes également Simone Leblanc, Élise Vendée, je crois que ça se prononce comme ça son nom, et Valérie Lachance-Guillemette. Donc une très très belle gang qui va être avec moi le 19 décembre au Quai des Brumes. Donc ça va être un moment assez, pareil, assez atypique parce que le Quai des Brumes, tu sais, c'est quand même. Un endroit où on va plus voir des shows plus rock'n'roll et pas franchement orchestral. Et je trouvais ça intéressant de ramener un orchestre dans un contexte de geek de bar, en fait. Donc, je pense que l'expérience va être assez singulière.
Oui, c'est un très beau contraste, quoi. C'est une expérience. Wow.
Bah, si tu veux, c'est aussi une volonté, tu sais, d'arrêter de devoir faire des choix entre des esthétiques qui me plaisent toutes autant l'une que l'autre. Je pense que c'est un peu ça ma direction, tu sais, c'est comment est-ce qu'on peut profiter de la richesse de toutes ces esthétiques musicales différentes et en faire une seule chose, de manière organisée et structurée avec, quand même beaucoup de réflexion sur comment on agence l'harmonie, comment on agence le rythme et comment on pense la forme à travers une instrumentation comme ça pour de la chanson, tu sais. Mais moi, c'est un peu mon postulat, en fait. Une chanson expérimentale qui peut pas se ranger dans une case, vraiment pas.
Ah oui, c'est un très bon postulat. Est-ce que ton album, comment tu le situes par rapport à ton cursus universitaire?
Eh bien, écoute, je pense qu'il a vraiment pas beaucoup de rapport avec mon cursus universitaire parce qu'à l'université, j'apprends surtout la musique électroacoustique, la musique algorithmique. Je fais un cursus de musique numérique, donc on est vraiment dans les sons fixés, dans la prise de son, dans la musique qui s'enregistre avant de se jouer. Mais j'apprends énormément de choses qui me servent pour développer mon oreille aussi pour la musique instrumentale. Donc c'est excessivement complémentaire. Mais pour le mix de l'album, j'avoue que tout ce que j'ai développé à l'université au niveau de mon oreille m'a beaucoup beaucoup aidé au niveau du travail des fréquences, etc. Mais surtout à l'université, tu sais, comme on découvre beaucoup, beaucoup d'artistes différents, bah forcément, ça ouvre tes oreilles quand tu fais un cours sur l'histoire de la musique électroacoustique et que tu écoutes des paysages sonores, que tu écoutes des sons de synthèse pendant des mois et des mois, bah forcément, ça influence aussi ta pratique instrumentale. C'est pour ça que je dis que c'est complémentaire. Mais voilà, pour l'aspect plus électroacoustique, j'ai un autre projet à côté de performance électroacoustique avec en plus de la danse et l'art visuel qui se rejoignent. mais ça, c'est un side project. En fait, je suis un petit peu sur tous les fronts à Montréal et je profite de la diversité de la culture montréalaise, c'est pour à la fois donner vie à mes projets de création qui allient, qui sont vraiment dans cette lignée d'art numérique et de nouvelles technologies. Et en même temps, je profite de la diversité en termes de musique instrumentale aussi pour proposer un album de chansons éclectiques, tu sais. Et comme ça, je suis remplie. J'ai vraiment besoin des deux pôles, en fait, dans ma vie. Le prochain album, je vais certainement faire se rejoindre les outils électroacoustiques à la pratique instrumentale pour avoir quelque chose d'encore plus contrastant et anachronique et poétique.
Ah bien, c'est super intéressant, Salomé. Donc, bien, c'est un rendez-vous au Quai des Brumes le 19 décembre pour lancer le titre de Salomé Perli qui s'intitule Dissonante. Et on te souhaite un super lancement. Profite bien. Merci beaucoup de ta présence à Café.
Merci de m'avoir reçu, Esther. Et bonne écoute, tout le monde. On se voit le 19 décembre au Quai des Brumes à 21h30.
21h30.
Je reviens.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKUT à votre émission d'art et culture préférée, l'émission Café. C'est Alex qui vous parle et pour terminer cette heure en beauté, on va aller en musique avec deux pièces de musique expérimentale. La première est celle du groupe The Furniture avec la pièce Contrail dont le clip est sorti cette semaine et si vous ne l'avez pas vu encore, je vous le conseille fortement. C'est Philippe Léonard qu'on a déjà reçu à l'émission l'hiver dernier, un des projectionnistes de Godspeed qui l'a conçu et c'est vraiment du beau travail. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ce clip. Et sinon, on va écouter la pièce Two House du groupe de Bell Orchestre House Music qui a remporté cette semaine le prix du meilleur album expérimental au GAMIC. Et c'est donc comme ça que se termine l'émission. À la semaine prochaine et bon vendredi soir, tout le monde.
101.3 FM CKUT, listening to Latin America.
Muchas gracias, Carla. You are right. This is 90.3 CKUT. We are back. 2 weeks ago, you haven't heard of us, and now we're back with a team bigger than ever, más grande que nunca. Este creo que es el equipo más grande que hemos tenido en el programa en su historia, desde que empezamos Listening to Latin America hace 3 años y pico con Slaza, Maconde del Club de los Feos. Here we are. Aquí está el equipo bien grande. Los voy a presentar uno por uno. Por favor, no se van porque tenemos un tema bien bacano para ustedes hoy. Empezando el verano, el temita de hoy son vacaciones en Latinoamérica. Este es el equipo profesional de Slaza que les va a decir de cada país dónde son sus lugares turísticos más favoritos. Les vamos a mostrar por qué los resorts no es la única cosa buena en Latinoamérica. Les tenemos un programa hoy. Empezando con el Copresi, Eric, ¿qué nos cuentas?
Hola, hola a todos. Un gusto estar de vuelta aquí después de 2 semanas.
Eso. La otra Copresi, Jenny, ¿cómo estás? Bien congelada se encuentra, pero bueno, ese es su saludo. Juancho, de Ciudad de México, nos saluda.
Hola, hola, ¿cómo están a todos?
Paola, ¿qué me cuentas? También en México, ¿cierto?
Hola, sí, pero no en ciudad, en Vallarta.
Vallarta. Dulce, ¿cómo estás? Tú sí estás aquí en Montreal con nosotros. Disfrutando de la primavera. Se te escucha muy lejano. Acércate un poco, porfa. Carlita de Paraguay.